Les mystères du Dolph par Anne Radcliffe. Chapitre 15. Montoni et son compagnon n'étaient pas de retour à la maison quand l'aube du jour rougit les flots. Les groupes charmants des danseurs se dispersèrent avec le matin, comme autant d'esprits fantastiques. Montoni avait été occupé ailleurs. Son âme était peu susceptible de voluptés frivoles. Il se plaisait dans le développement des passions énergiques, les difficultés, les tempêtes de la vie qui renversent le bonheur des autres, ranimaient tous les ressorts de son âme et lui procuraient les seules jouissances dont il fut capable. Sans un extrême intérêt, la vie n'était pour lui qu'un sommeil. Quand l'intérêt réel lui manquait, il s'en formait d'artificiel. Jusqu'à ce que, l'habitude venant à les dénaturer, ils cessassent d'être fictifs. Tel était l'amour du jeu. Il ne s'y était d'abord livré que pour se tirer de l'inaction et de la langueur, et il y avait persisté avec toute l'ardeur d'une passion opiniâtre. C'était à jouer qu'il avait passé la nuit avec Cavigny, dans une société de jeunes gens qui avaient plus d'écus que d'aïeux, et plus de vices encore que d'argent. Montoni méprisait la plupart de ces gens, plutôt pour la faiblesse de leur talent que pour la bassesse de leur inclination. Il ne se les associait que pour en faire les instruments de ses desseins. Dans ce nombre, cependant, il s'en trouvait de plus habiles, et Montoni les admettait à son intimité. Mais encore conservait-il à leur égard cet air hautain et décidé qui commande la soumission aux esprits lâches ou timides, et qui excite la haine et la fierté des esprits élevés. Il avait donc de nombreux et de mortels ennemis. Mais l'ancienneté de leur haine était la preuve de sa puissance, et comme la puissance était son unique but, il était plus glorieux d'une haine semblable que de toute l'estime qu'on aurait pu lui témoigner. Il dédaignait un sentiment aussi modéré que celui de l'estime, et se serait méprisé lui-même s'il s'était cru capable de s'en contenter. Dans le petit nombre de ceux qu'il distinguait étaient les signors Bertolini, Orsino et Verezzi. Le premier avait un caractère gai, des passions vives. Il était d'une dissipation, d'une extravagance sans bornes, mais d'ailleurs généreux, brave et confiant. Orsino, réservé, hautain, aimait le pouvoir plus que l'ostentation. Son naturel était cruel et soupçonneux. Il ressentait vivement une injure, et la vengeance ne lui laissait point de repos. Pénétrant, fécond en ressources, patient, constant dans sa persévérance, il savait maîtriser ses traits et ses passions. L'orgueil, la vengeance, l'avarice étaient presque les seules qu'il connut. Peu de considération avait le pouvoir de l'arrêter. Peu d'obstacles pouvaient éluder la profondeur de ses stratagèmes. Cet homme était surtout le favori de Montoni. Verezzi ne manquait pas de talent. La violence de son imagination le rendait esclave des passions opposées. Il était gai, voluptueux, entreprenant. Il n'avait néanmoins ni suite ni vrai courage, et le plus vil égoïsme était l'unique principe de ses actions. Prompt dans ses projets, pétulant dans ses espérances, le premier pressé d'entreprendre et d'abandonner, non seulement ses plans mais ceux des autres, orgueilleux, impétueux, révolté contre toute espèce de subordination, et ceux pourtant qui connaissaient à fond son caractère et qui savaient diriger ses passions, le menaient comme un enfant. Tels étaient les amis que Montoni introduisit dans sa maison et admit à sa table dès le lendemain de son arrivée à Venise. Il y avait aussi parmi eux un noble vénitien appelé le comte Morano et une signora Livona que Montoni présenta à sa femme comme une personne d'un mérite distingué. Elle était venue le matin pour la féliciter de son arrivée et on l'avait invitée à dîner. Madame Montoni reçut de très mauvaise grâce les compliments des signors. Il suffisait pour lui déplaire qu'ils fussent les amis de son époux. Elle les haïssait encore parce qu'elle les accusait d'avoir contribué à le retenir dehors toute la nuit précédente. Enfin, elle leur portait envie, parce que, bien convaincue de son peu d'influence sur Montoni, Elle supposa qu'il préférait leur société à la sienne. Le rang du comte Morano lui valut un accueil qu'elle refusait à tout le reste. Son maintien, ses manières dédaigneuses, la recherche extravagante de sa parure, elle n'avait pas encore adopté de costume vénitien, contrastaient fortement avec la beauté, la modestie, la douceur, la simplicité de sa nièce. Émilie observait avec plus d'attention que de plaisir la société qui l'entourait. La beauté, néanmoins, les grâces séduisantes de la signora Livona l'attirèrent involontairement. La douceur de ses accents, son air de complaisance, réveillèrent dans le cœur d'Émilie les affections aimables qui semblaient sommeiller depuis longtemps. Pour profiter de la fraîcheur de la soirée, toute la compagnie s'embarqua dans la gondole de Montoni. Le rouge brillant du couchant colorait encore les vagues et s'affaiblissait à l'occident. Les dernières teintes semblaient se dégrader avec lenteur, tandis que le bleu foncé de la voûte céleste commençait à briller d'étoiles. Émilie se livrait à des émotions aussi douces qu'elles étaient sérieuses. Le calme de la mer sur laquelle elle voguait, les images qui venaient s'y peindre, un nouveau ciel, des étoiles répétées dans les flots, l'esquisse rembrunie des tours et des portiques, le silence enfin de cette heure avancée, qu'interrompait seulement le battement d'une vague et les sons imparfaits d'une musique éloignée, tout élevait ses pensées. Des larmes s'échappaient de ses yeux. Les rayons de la lune, qui prenaient plus de force à mesure que les ombres s'étendaient, jetaient alors sur elle leur éclat argentin. À demi couverte d'un voile noir, sa figure en recevait une inimitable douceur. Le comte Morano, assis près d'Émilie, et qui l'avait considérée en silence, prit tout à coup son luth. Il en toucha les cordes en chantant d'une voix flatteuse un rondeau plein de mélancolie. Quand il eut fini, il donna le luth à Émilie. En s'accompagnant sur cet instrument, elle chanta une petite romance, puis une chanson populaire de son pays, avec beaucoup de goût et de simplicité. Mais ce chant qu'elle aimait ramena vivement son imagination à des souvenirs affligeants. Alors sa voix tremblante expira sur ses lèvres, et les cordes du luth ne résonnèrent plus sous sa main. Honteuse enfin de l'émotion qui l'avait trahie, elle passa subitement à une chanson si gaie, si légère, que des pas de danse semblaient répondre à toutes les notes. « Bravissimo !» s'écria son auditoire, et l'air fut redemandé. Au milieu des compliments qu'on lui fit, ceux du comte ne furent pas les moins empressés, et ils duraient encore quand Émilie passa le luth à la signora Livona, qui s'en servit avec tout le goût italien. Le comte, Émilie, Cavigni et la signora chantèrent ensuite des canzonettes, accompagnées de deux luths et de quelques autres instruments. Quelquefois les instruments cessaient, et les voix, dans un parfait accord, s'adoucissait jusqu'au dernier degré. Elle se relevait après une pause. Les instruments reprenaient successivement et le chœur général faisait retentir les airs. Pendant ce temps, Montoni, las de cette musique, réfléchissait aux moyens de se dégager de la partie pour suivre ceux qui voudraient aller au jeu dans un casino. Il proposa de retourner au rivage. Orsino l'appuya de grand cœur, mais le comte et tous les autres s'y opposèrent avec vivacité. Montoni médita de nouveau comment il pourrait se dispenser d'accompagner le comte plus longtemps. Les gondoliers d'un bateau vide et qui revenaient à Venise passèrent à côté du sien. Sans se tourmenter plus longtemps d'une excuse, il saisit l'occasion et, confiant les dames aux soins de ses amis, il partit avec Orsino. Émilie, pour la première fois, le vit sortir avec regret. Elle regardait sa présence comme une protection, sans bien savoir ce qu'elle avait à craindre. Ils prêtèrent à la place Saint-Marc, et courant au casino, il se perdit dans la foule des joueurs. Le comte avait secrètement fait partir un de ses gens dans le bateau de Montoni. Il avait demandé sa gondole et ses musiciens. Émilie, qui ne savait rien de ses projets, entendit les joyeuses chansons des gondoliers qui s'approchaient, et qui, placés au fond de leur bateau, troublaient avec leurs rames les flots d'argent où se peignait la lune. Bientôt elle distingua le son des instruments. une symphonie bruyante partit. À l'instant même, les bateaux se rencontrèrent, les gondoliers les unirent. Le comte alors expliqua tout, et l'on passa dans sa gondole, que décoraient des ornements du meilleur goût. Pendant qu'on partageait une collation faite de fruits et de glaces, les musiciens dans l'autre barque faisaient entendre une mélodie charmante. Le comte, assis près d'Émilie, n'était occupé que d'elle, et lui prodiguait d'une belle voix, mais passionnée, des compliments dont le sens n'était pas douteux. Pour les éviter, elle entretenait la signora Livona, et prenait avec le comte une réserve imposante, mais trop douce pour contenir ses empressements. Il ne pouvait voir, entendre qu'Émilie. Il ne pouvait parler qu'à elle. Cavigny l'observait avec humeur. Émilie avec embarras. Elle ne désirait rien tant que retourner à Venise. Ils prirent terre à la place Saint-Marc. La beauté de la nuit détermina Madame Montoni à agréer les propositions du comte de parcourir la promenade avant que d'aller souper à son casino avec le reste de la société. Si quelque chose avait pu dissiper les tourments d'Émilie, c'était la nouveauté de tout ce qui l'entourait, les ornements des palais et le tumulte des mascarades. Enfin, ils se rendirent au casino. Il était orné dans le meilleur goût. Un souper splendide y était préparé. Mais ici, la réserve d'Émilie fit comprendre au comte combien la faveur de Madame Montoni lui était nécessaire. La condescendance qu'elle lui avait déjà montrée l'empêchait de juger l'entreprise bien difficile. Il reporta donc sur la tante une partie de ses attentions pour Émilie. Madame Montoni fut tellement flattée de cette distinction qu'elle ne put en dissimuler sa joie. Avant la fin de la soirée, le comte avait toute son estime. S'adressait-il à Madame Montoni? Son visage morose s'épanouissait. Elle souriait à toutes ses paroles, agréait à toutes ses propositions. Il l'invita avec la société à prendre le café dans sa loge, à l'opéra, le jour suivant. Émilie entendit qu'elle acceptait, et ne fut plus occupée que de trouver une excuse qui l'en dispensa. Il était tard avant que la gondole fût demandée. La surprise d'Émilie fut extrême quand, à la sortie du casino, elle vit le soleil s'élever des flots adriatiques et la place Saint-Marc encore remplie de monde. Le sommeil depuis longtemps appesantissait ses yeux. La fraîcheur du vent de mer la ranima, et elle aurait même quitté la place avec regret sans la présence du comte, qui voulait absolument escorter les dames jusque chez elle. Là, elles apprirent que Montoni n'était point encore rentré. Sa femme rentra dans son appartement et délivra Émilie de l'ennui de sa compagnie. Montoni revint tard. Il était en fureur. Il avait fait une perte considérable. Avant de se coucher, il voulut entretenir particulièrement Cavigny, et l'air de ce dernier fit assez voir le jour suivant que le sujet de la conférence lui avait été peu agréable. Madame Montoni, qui tout le jour avait gardé le silence du mécontentement, reçut vers le soir quelques Vénitiennes dont les douces manières avaient enchanté Émilie. Ces dames avaient un grand air d'aisance, de bienveillance avec les étrangers. Il semblait qu'elles les connussent depuis longtemps. Leur conversation était tour à tour tendre, sentimentale, sémillante. Madame Montoni même, qui n'avait aucun attrait pour ce genre d'entretien, et dont la sécheresse et l'égoïsme contrastaient souvent à l'excès avec leur extrême politesse, Madame Montoni ne put être insensible à leur charme. Cavigny rejoignit les dames dans la soirée. Montoni avait d'autres engagements. Elles s'embarquèrent dans la gondole pour se rendre à la place Saint-Marc, où l'affluence était aussi considérable que la veille. Après une courte promenade, on s'assit à la porte d'un casino, et pendant que Cavigny se faisait apporter du café et des glaces, le comte Morano arriva. Il aborda Émilie avec un air d'impatience et de plaisir, qui, joint à ses attentions continuelles de la veille, l'obligèrent à le recevoir avec la plus timide réserve. Il était près de minuit lorsqu'on se rendit à l'opéra. Émilie, en y entrant, se rappela tout ce qu'elle venait de quitter, et en fut moins éblouie. Toute la splendeur de l'art lui paraissait au-dessous du sublime de la nature. Son cœur n'était pas ému. Des larmes d'admiration ne s'échappèrent pas de ses yeux, comme à la vue d'un océan immense, et de la grandeur des cieux, au son des vagues tumultueuses, aux accords d'une musique enivrante. De tels souvenirs devaient rendre insipide la scène usée qui s'offrait à ses regards. Plusieurs semaines s'écoulèrent dans le cours des visites ordinaires. Émilie s'amusait à considérer un théâtre et des mœurs aussi opposées à ceux de la France. Mais le comte Morano s'y trouvait trop fréquemment pour sa tranquillité. Ses grâces, sa figure, ses agréments qui faisaient l'admiration générale, eussent peut-être attiré aussi celle d'Émilie, si son cœur n'eût été rempli de Valancourt. Peut-être encore eût-il fallu qu'il mît plus de modération dans ses poursuites. Quelques traits de son caractère qu'il découvrit dans sa persécution indisposèrent Émilie sur tout le reste, et la prévinrent contre ses meilleures qualités. Bientôt après son arrivée à Venise, Montoni reçut un paquet de M. Quesnel. Il annonçait la mort de l'oncle de sa femme à sa maison de la Brenta, et le projet qu'il avait formé de venir promptement prendre possession de cette maison et des autres biens qui devenaient son partage. Cet oncle était le frère de la mère de Mme Quesnel. Montoni, lui, était parent du côté de son père, et quoiqu'il n'eût rien à prétendre sur cette riche succession, il ne put cacher toute l'envie que cette nouvelle excitait dans son cœur. Émilie avait observé que, depuis son départ de France, Montoni n'avait pas même conservé d'égard pour sa tante. D'abord, il l'avait négligée. Maintenant, il ne lui montrait que de l'éloignement et de l'humeur. Elle n'avait jamais supposé que les défauts de sa tante eussent échappé au discernement de Montoni, et que son esprit et sa figure eussent mérité son attention. La surprise que lui causa ce mariage avait été extrême, mais le choix étant fait, elle n'imaginait pas comment il pouvait aussi ouvertement lui témoigner son mépris. Montoni, attiré par l'apparente richesse de Madame Chéron, se trouva singulièrement déchu de ses espérances. Séduit par les ruses qu'elle avait mises en œuvre, tant elle l'avait cru nécessaire, il s'était vu dupé dans une affaire où lui-même avait voulu tromper. Il avait été joué par les finesses d'une femme dont il estimait fort peu l'intelligence, et se trouvait avoir sacrifié son orgueil et sa liberté, sans se préserver de la ruine désastreuse suspendue sur sa tête. Madame Montoni avait placé sur elle-même la plus grande partie de sa fortune. Montoni s'était emparé du reste. Et quoique la somme qu'il en avait réalisée fût inférieure à son attente, comme à ses besoins, il avait emporté cet argent à Venise, pour en imposer au public et tenter la fortune par un dernier effort. Les ouvertures qu'on avait faites à Valancourt sur le caractère et la position de Montoni n'étaient que trop exactes. C'était au temps, c'était aux occasions à dévoiler le mystère. Madame Montoni n'était pas de caractère à souffrir une injure avec douceur, encore moins à la ressentir avec dignité. Son orgueil exaspéré se déployait avec toute la violence, toute l'aigreur d'un esprit étroit, ou tout au moins fort mal réglé. Elle ne voulait pas même reconnaître que sa duplicité avait en quelque sorte provoqué un pareil mépris. Elle persista à croire qu'elle était seule à plaindre, et que Montoni était seul à blâmer. Peu capable de saisir quelque idée morale d'obligation, elle n'en concevait la force que lorsqu'on les violait à son égard. Sa vanité souffrait déjà cruellement du mépris ouvert de son époux. Il lui restait à souffrir davantage en découvrant l'état de ses biens. Le désordre de sa maison apprenait une partie de la vérité aux personnes sans passion. Mais celle qui voulait très décidément ne croire que selon leurs désirs était tout à fait aveuglée. Madame Montoni ne se croyait guère moins qu'une princesse, étant souveraine d'un palais à Venise et d'un château dans l'Apennin. Quelquefois Montoni parlait d'aller pour quelques semaines à son château du Dolphe. Il voulait en examiner l'état et y recevoir ses revenus. Il paraissait que depuis 2 ans il n'en avait pas approché, et que le château était abandonné aux soins d'un ancien domestique que Montoni appelait son intendant. Émilie entendait parler de ce voyage avec plaisir. Il lui promettait des idées nouvelles et quelques intervalles aux assiduités de Morano. D'ailleurs, à la campagne, elle aurait plus de loisirs pour s'occuper de Valancourt, pour se livrer à la mélancolie en se peignant son image, pour se retracer les environs de la vallée, que sanctifiait la mémoire de ses parents. Ces tableaux qu'elle se faisait étaient plus doux à son cœur que toute la magnificence des assemblées. Le comte Morano ne s'en tint pas longtemps au langage muet de l'empressement. Il déclara sa passion à Émilie et fit ses propositions à Montoni, qui les agréa en dépit des refus d'Émilie. Encouragé par Montoni, et surtout par une aveugle vanité, le comte ne désespéra point de son succès. Émilie fut surprise et vivement offensée de sa persévérance. Morano passait presque tout son temps chez Montoni. Il y dînait habituellement, et il suivait partout Madame Montoni et Émilie. Une seconde lettre de M. Quesnel annonça son arrivée et celle de sa femme à Miarenti. Elle contenait quelques détails sur le heureux hasard qui le conduisait en Italie et finissait par une pressante invitation pour Montoni, son épouse et sa nièce, de le visiter dans sa nouvelle possession. Émilie reçut à peu près dans le même temps une lettre bien plus intéressante et qui, pour quelque temps, adoucit l'amertume de son cœur. Valancourt, espérant qu'elle pouvait être encore à Venise, avait hasardé une lettre par la poste. Il lui parlait de son amour, de ses inquiétudes et de sa constance. Il avait langui à Toulouse encore quelque temps après son départ. Il y avait goûté le plaisir d'errer dans les lieux où elle avait l'habitude de se trouver. Il en était parti pour se rendre au château de son frère dans le voisinage de la vallée. Il ajoutait « Si mon service et mon devoir ne m'obligeaient pas à rejoindre mon régiment, je ne sais pas quand j'aurai assez de courage pour m'éloigner d'un lieu que votre souvenir me rend si cher. Le voisinage de la vallée est le seul motif qui m'ait retenu si longtemps à Étouvières. » Dans une autre partie de sa lettre, il écrivait « Vous devez voir que ma lettre est datée de plusieurs jours différents. Regardez ces premières lignes, et vous verrez que je les écrivis bientôt après votre départ de France. » Je viens d'apprendre une circonstance qui détruit à la fois toutes mes illusions. Elle me résigne à la nécessité de rejoindre mon régiment. Je ne puis plus errer sous ces ombrages chéris où je vous trouvais en pensée. La vallée est louée. J'ai lieu de croire que c'est à votre insu, d'après ce que Thérèse m'a dit ce matin. Et c'est pour cela que je vous en parle. Elle fondait en larmes en me racontant qu'elle allait quitter le service de sa chère maîtresse et le château où elle avait passé tant d'années heureuses. Et tout ceci, ajoutait-elle, sans une lettre de mademoiselle qui m'en adoucisse la douleur. C'est l'ouvrage de M. Quesnel, et j'ose dire qu'elle ignore elle-même tout ce qui va se passer ici. Thérèse m'apprit qu'elle avait reçu une lettre de lui, et lui annonçait que le château était loué, qu'on n'avait plus besoin de ses services, et qu'elle eût à déloger dans la semaine où elle recevrait cette nouvelle. Cette lettre fit verser bien des larmes à Émilie. Mais des larmes de tendresse et de satisfaction, en apprenant que Valancourt se portait bien, et que l'absence ni le temps n'avaient effacé son image. Cette lettre était remplie de choses qui la touchèrent. Avec quelle sensibilité Valancourt racontait ses visites à la vallée, rendait compte des émotions délicates que ce lieu réveillait en lui. Elle eut bien de la peine à se distraire de Valancourt. Quant à la vie qu'il lui donnait sur la vallée, elle était surprise et blessée que M. Quesnel eût loué son habitation sans daigner même la consulter. Ce procédé montrait assez à quel point il croyait son autorité absolue et ses pouvoirs illimités dans le maniement de ses affaires. Émilie pleurait amèrement en faisant ses réflexions. Elle chercha ce qu'elle pouvait faire pour Thérèse, comment elle s'expliquerait à ce sujet avec M. Quesnel. Elle craignait beaucoup que son âme glacée ne sentît rien. Elle voulut s'informer si, dans ses lettres à Montoni, M. Quesnel faisait mention de ses affaires. Et bientôt Montoni lui en fournit l'occasion. Il la fit prier de passer dans son cabinet. Elle ne doutait pas qu'il n'eût à lui communiquer la partie de la lettre de M. Quesnel relative à son opération de la vallée. Elle s'y rendit promptement. Il était seul. J'écrivais à M. Quesnel, lui dit-il quand elle parut. C'est une réponse à la lettre que j'en ai reçue dernièrement. Je désirais vous entretenir sur un article de cette lettre. Je désirais aussi, monsieur, vous entretenir à ce sujet, répondit Émilie. C'est une chose très intéressante pour vous, reprit Montoni. vous la voyez sans doute sous le même rapport que moi. Car on ne peut l'envisager sous aucun autre. Vous conviendrez que toute objection fondée sur le sentiment, comme on l'appelle, doit céder à des considérations d'un avantage plus solide. En accordant ceci, dit Émilie modestement, il me semble que les considérations d'humanité doivent entrer aussi dans le calcul. Mais je crains qu'il ne soit trop tard pour délibérer sur ce plan. Et je regrette qu'il ne soit plus en mon pouvoir de le rejeter. Il est trop tard, dit Montoni. Mais je suis bien aise de voir que vous vous soumettez à la raison et à la nécessité, sans vous livrer à des plaintes inutiles. J'applaudis singulièrement à cette conduite. Elle annonce une force d'âme dont votre sexe est rarement capable. Quand vous aurez quelques années de plus, vous reconnaîtrez le service que vos amis vous rendent en vous retirant des romanesques illusions du sentiment. Vous les regarderez comme des lisières d'enfance qu'il faudrait briser en sortant de nourrice. Je n'ai pas fermé ma lettre, et vous pouvez y ajouter quelques lignes pour informer votre oncle de votre consentement. Vous le verrez bientôt. Mon intention est de vous mener à Miarenti sous peu de jours avec Madame Montoni. Vous pourrez causer de cette affaire. Émilie écrivit sur le dos du papier les lignes suivantes. Il est à présent inutile, monsieur, de vous présenter des observations sur l'objet dont le signor Montoni m'apprend qu'il vous écrit. J'aurais pu désirer qu'on eût conclu l'affaire moins précipitamment. Cela m'aurait donné du temps pour vaincre ce que le signor appelle des préjugés, et dont le poids accable mon cœur. Puisque la chose est faite, je m'y soumets, mais malgré ma soumission, j'ai bien des choses à dire sur d'autres points relatifs au même sujet, et je les réserve pour le moment où j'aurai l'honneur de vous voir. Je vous prie, monsieur, en attendant, de vouloir bien prendre soin de ma pauvre Thérèse, en considération, monsieur, de votre nièce affectionnée, Émilie Saint-Aubert. Montoni sourit ironiquement à ce qu'avait écrit Émilie, mais il ne lui fit aucune objection. Elle se retira dans son appartement et commença une lettre pour Valancourt. Elle y rapportait les particularités de son voyage et de son arrivée à Venise. Elle y décrivait les scènes les plus frappantes de son passage des Alpes, ses émotions à la première vue de l'Italie, les mœurs et le caractère du peuple qui l'entourait, et quelques détails sur la conduite de Montoni. Elle évita de nommer le comte Morano. Elle parla bien moins encore de la déclaration qu'il avait faite. Elle savait combien le véritable amour est prompt à s'effrayer. Le jour suivant, le comte dîna chez Montoni. Il était d'une rare gaieté. Émilie remarqua dans ses manières avec elle un air de confiance et de joie qu'il n'avait jamais eu. Elle s'efforça de le réprimer en redoublant sa froideur habituelle, mais elle n'y réussit pas. Il parut épier l'occasion de l'entretenir sans témoin. Mais Émilie lui répliqua toujours qu'elle ne voulait rien entendre de ce qu'il ne voulait pas dire tout haut. Sur le soir, Madame Montoni et sa société allèrent se promener sur la mer. Le comte, en conduisant Émilie à son zendaletto, porta sa main jusqu'à ses lèvres et la remercia de la condescendance qu'elle avait daigné lui montrer. Émilie, surprise et mécontente, se hâta de retirer sa main et crut qu'il plaisantait. Mais quand au bas de la terrasse, elle vit à la livrée que c'était le zendaletto du comte et que le reste de la société s'étant arrêté dans les gondoles était au moment de partir, elle résolut de ne point souffrir un entretien particulier. Elle lui donna le bonsoir et retourna vers le portique. Le comte la suivit, priant et suppliant Montoni, qui parut émit très vos sollicitations. Il prit Émilie par la main et la mena au zendaletto. Émilie priait tout bas Montoni de considérer l'inconvenance de cette démarche. « Ce caprice est intolérable, dit-il, et je n'y céderai point. Je ne vois ici nulle inconvenance. » De ce moment, l'éloignement d'Émilie pour le comte devint une sorte d'horreur. L'audace inconcevable avec laquelle il continuait de la poursuivre, en dépit de son refus, l'indifférence qu'il témoignait pour son opinion particulière, tant que Montoni favoriserait ses prétentions, tout se réunissait pour augmenter l'excessive répugnance qu'elle n'avait jamais cessé de ressentir pour lui. Elle fut pourtant un peu moins mécontente en apprenant que Montoni serait de la partie. Il se mit d'un côté, Morano se plaça de l'autre. On ne dit pas un mot pendant que les gondoliers préparaient leurs rames. Émilie frémissait de l'entretien qui suivrait ce silence. Elle eut enfin assez de courage pour le rompre par quelques paroles oiseuses, à dessein de prévenir les beaux discours de l'un et les reproches de l'autre. « J'étais impatient, lui dit le comte, de vous exprimer la reconnaissance que j'ai de vos bontés, mais je dois aussi des remerciements au signor Montoni, qui m'a procuré l'occasion que je désirais si vivement. » Émilie regarda le comte avec un mélange de surprise et de mécontentement. « Quoi donc ? Continua-t-il. « Voudriez-vous diminuer le charme de ce moment délicieux ? Pourquoi me rejeter dans les perplexités du doute et démentir par vos regards la faveur de vos dernières déclarations ? Vous ne pouvez douter de ma sincérité, de toute l'ardeur de ma passion. Il est inutile, charmante Émilie. Sans doute il est bien inutile que vous cherchiez plus longtemps à déguiser vos sentiments. » « Si je les avais jamais déguisés, monsieur, » reprit Émilie après avoir recueilli ses esprits. « Sans doute il serait inutile de dissimuler plus longtemps. J'avais espéré que vous m'épargneriez la nécessité de les déclarer encore, mais puisque vous m'y forcez, entendez-moi protester, et pour la dernière fois, que votre persévérance vous prive même de l'estime dont j'étais disposée à vous croire digne. » « Pour le coup, » s'écria Montoni, « cela passe mon attente. J'avais reconnu des caprices dans les femmes, mais observez, mademoiselle Émilie, que si le comte est votre amant, moi je ne le suis point, et je ne servirai point de jouet à vos capricieuses incertitudes. On vous propose une alliance dont toute famille se trouverait honorée. La vôtre n'est pas noble, souvenez-vous-en. Vous avez résisté longtemps à mes remontrances. Mon honneur est maintenant engagé. Je n'entends pas souffrir qu'on y porte atteinte. Vous persisterez, s'il vous plaît, dans la déclaration que vous m'avez chargé de faire au comte. » « Il faut certainement que vous soyez dans l'erreur, monsieur, » dit Émilie. « Mes réponses sur ce sujet ont été constamment les mêmes. Il est indigne de vous de m'accuser de caprice. Si vous avez consenti, monsieur, à vous charger de mes réponses, c'est un honneur que je ne sollicitais pas. J'ai déclaré moi-même au comte Morano, ainsi qu'à vous, monsieur, que jamais je n'accepterai l'honneur qu'il veut bien me faire. Et je le répète. » Le comte regardait Montoni d'un air de surprise. Le maintien de celui-ci montrait aussi de la surprise, mais une surprise mêlée d'indignation. « Il y a ici autant d'audace que de caprice, » dit-il enfin. « Nierez-vous vos propres mots, madame ?»« Une telle question ne mérite point de réponse, monsieur, » reprit Émilie en rougissant. « Vous vous la rappellerez. Et vous vous repentirez de l'avoir faite. » Répondez catégoriquement, répliqua Montoni, dont la voix s'élevait avec une nouvelle véhémence. Voulez-vous nier vos propres mots? Voulez-vous nier que tout à l'heure vous avez reconnu qu'il était trop tard pour échapper à vos engagements? Que vous avez accepté la main du comte? Voulez-vous le nier? Je nierai tout cela, parce qu'aucun mot de ma bouche n'a jamais rien exprimé de semblable. Nierez-vous que vous avez écrit à M. Quesnel, votre oncle? Si vous le faites, votre écriture portera témoignage contre vous. Qu'avez-vous à dire maintenant? Continua Montoni, se prévalant du silence et de la confusion d'Émilie. Je m'aperçois, monsieur, que vous êtes dans une grande erreur, et que j'ai moi-même été trompée. Plus de duplicité, je vous en prie. Soyez franche et sincère, si cela se peut. Je l'ai toujours été, monsieur. Et je n'ai sûrement aucun mérite à cela, je n'ai rien à dissimuler. « Qu'est-ce donc que cela ? » s'écria Morano avec émotion. « Suspendez votre jugement, comte, » répliqua Montoni. « Les idées d'une femme sont impénétrables. À présent, madame, venons à l'explication. « Excusez-moi, monsieur, si je suspends cette explication jusqu'au moment où vous paraîtrez plus disposé à la confiance. » Tout ce que je dirai en ce moment ne servira qu'à m'exposer à l'insulte. « Une explication, je vous prie, » dit Morano. « Parlez, » reprit Montoni. « Je donne toute confiance. Écoutons. Souffrez que je vous conduise à un éclaircissement en vous faisant une question. « 1000, si cela vous plaît, » dit Montoni, dédaigneusement. « Quel était le sujet de votre lettre à M. Quesnel ? Que pouvait-il être? L'offre honorable du comte Morano. Alors, monsieur, nous nous sommes tous les deux trompés étrangement. Nous nous sommes aussi mépris, je le suppose, dit Montoni, dans la conversation qui précéda la lettre. Je dois vous rendre justice. Vous êtes ingénieuse à faire naître un malentendu. Émilie tâchait de retenir ses larmes et de répondre avec fermeté. Permettez-moi, monsieur, de m'expliquer entièrement, ou de garder un silence absolu. Montoni, s'écria le comte, laissez-moi plaider ma propre cause. Il est évident que vous n'y pouvez rien. Toute conversation sur ce sujet, monsieur, dit Émilie, est au moins inutile. Si vous voulez m'obliger, ne la prolongez pas. Il m'est impossible, madame, que j'étouffe une passion qui fait le charme et le tourment de ma vie. Je vous aimerai toujours. Je vous poursuivrai avec une ardeur infatigable. Quand vous serez convaincu et de la force et de la constance de ma passion, votre cœur se fléchira à la pitié et peut-être au repentir. Un rayon de lune qui tomba sur la physionomie de Morano découvrit le trouble et les agitations de son âme. C'en est trop, s'écria soudain le comte. Signor Montoni, vous m'abusez, et c'est à vous que je demande explication. À moi, monsieur. Vous l'aurez, murmura Montoni. Vous m'avez trompé, continua Morano, et vous voulez punir l'innocence du mauvais succès de vos projets. Montoni sourit dédaigneusement. Émilie, épouvantée des suites que cette dispute pouvait avoir, ne put garder le silence plus longtemps. Elle expliqua le sujet de la méprise. Elle déclara qu'elle n'avait entendu consulter Montoni que sur la location de la vallée. Elle conclut en le priant d'écrire sur le champ à M. Quesnel et de réparer cette erreur. Le comte Morano se contenait à peine. Néanmoins, tandis qu'elle parlait, l'attention de l'un et de l'autre était captivée par ses discours, et son effroi à peu près calmé. Montoni pria le comte d'ordonner qu'on revînt à Venise, et il lui promit alors un entretien particulier. Morano se rendit à sa demande. Émilie, consolée par la perspective de quelque repos, employa ses soins conciliants à prévenir toute explosion entre deux personnes qui venaient de la persécuter, et même de l'insulter sans ménagement. Elle reprit un peu ses esprits quand elle entendit encore une fois les chansons et les rires qui résonnaient sur le grand canal. Le Zendaletto s'arrêta sous la maison de Montoni. Le comte conduisit Émilie dans une salle où Montoni la prit par le bras et lui dit quelque chose à voix basse. Morano baisa la main qu'il tenait, nonobstant l'effort d'Émilie pour la dégager des siennes. Il lui souhaita le bonsoir avec un accent et un regard dont l'expression n'était pas douteuse, et retourna au Zendaletto, accompagné de Montoni. Émilie, dans son appartement, considéra avec une extrême inquiétude la conduite injuste et tyrannique de Montoni, la persévérance imprudente de Morano et sa triste situation à elle-même, loin de ses amis et de sa patrie. Elle regardait en vain Valancourt comme son protecteur. Il était retenu loin d'elle par son service. Mais c'était au moins une consolation de savoir qu'il existait dans le monde une personne qui partageait ses peines, et dont les vœux ne tendaient qu'à l'en délivrer. Elle résolut néanmoins de ne pas lui causer une douleur inutile, en lui disant pourquoi elle regrettait d'avoir rejeté le jugement qu'il portait sur Montoni. Ce regret n'allait pourtant pas jusqu'à la faire repentir d'avoir écouté le désintéressement et la délicatesse, et d'avoir refusé la proposition d'un mariage clandestin. Elle fonda quelque espoir sur sa prochaine entrevue avec son oncle. Elle était décidée à lui peindre sa détresse et à le prier de permettre qu'elle l'accompagnât, lui et Madame Quesnel, à leur retour en France. Elle se souvint tout à coup que la vallée, sa demeure chérie, son unique asile, ne serait plus à elle de longtemps. Les larmes coulèrent abondamment. Elle craignit de trouver peu de pitié dans un homme comme M. Quesnel, qui disposait de sa propriété sans daigner même la consulter, et congédiait une servante âgée et fidèle, qu'il laissait sans ressources et sans asile. Mais quoiqu'il fût certain qu'elle n'avait plus de maison en France, et qu'elle s'y connût peu d'amis, elle voulait y retourner, et se dérober, s'il lui était possible, à la domination de Montoni. Sa tyrannie envers elle, sa dureté envers les autres, lui paraissait insupportable. Elle n'avait pas le désir d'habiter avec son oncle, M. Quesnel. La conduite de celui-ci à l'égard de son père et d'elle-même suffisait bien pour la convaincre qu'elle ne ferait que changer d'oppresseur. La conduite de Montoni, dans sa lettre à M. Quesnel, lui paraissait singulièrement suspecte. Il pouvait dans le principe avoir été trompé, mais elle craignait qu'il ne persistât volontairement dans son erreur pour l'intimider, la plier à ses désirs et la forcer d'épouser le comte. Que cela fût ou non, elle n'en était pas moins empressée de s'expliquer avec M. Quesnel. Elle considérait sa prochaine visite avec un mélange d'impatience, d'espérance et de crainte. Le jour suivant, Madame Montoni, seule avec Émilie, parla du comte Morano. Elle parut surprise que la veille, elle n'eût pas joint les autres gondoles et qu'elle eût repris si brusquement la route de Venise. Émilie raconta tout ce qui s'était passé. Elle exprima son chagrin de la méprise arrivée entre elle et Montoni et pria sa tante d'interposer ses bons offices pour qu'il donnât enfin au comte un refus décisif et formel. Mais elle s'aperçut bientôt que Madame Montoni n'ignorait pas le dernier entretien quand elle avait commencé celui-ci. « Je n'ai pas la prétention, ma nièce, de rien comprendre à ce fatras de beaux sentiments. Vous en avez la gloire à vous toute seule, mais je voudrais vous enseigner un peu de bon sens et ne pas vous voir la merveilleuse sagesse de mépriser votre bonheur. « Cela ne serait plus sagesse, mais folie, » dit Émilie. La sagesse n'a pas de plus belle perspective que celle d'arriver au bonheur. Vous accorderez, madame, que nos idées peuvent différer quant au bonheur. Je ne doute pas que vous ne désiriez le mien, mais je crains que vous ne vous trompiez dans les moyens de me le procurer. Je ne me vante point, ma nièce, d'une éducation aussi savante que celle qu'il a plu à votre père de vous donner. Je ne me pique point de comprendre ces belles dissertations sur le bonheur. Je me contente du sens commun. Il eût été fort heureux, pour votre père et pour vous, qu'il fût entré pour quelque chose dans ses recherches. » Émilie, vivement offensée de pareilles réflexions sur la mémoire de son père, méprisa ce discours, comme il méritait de l'être. Durant le peu de jours qui s'écoulèrent entre cette conversation et le départ pour Miarenti, Montoni n'adressa pas une seule fois la parole à Émilie. Ses regards exprimaient son ressentiment. Mais Émilie s'étonnait beaucoup qu'il pût s'abstenir d'en renouveler le sujet. Elle fut encore plus surprise de voir que, pendant les 3 jours, le comte ne parut pas et que Montoni ne prononça pas même son nom. Plusieurs conjectures s'élevèrent dans son esprit. Elle craignait quelquefois que la querelle ne se fût renouvelée et ne fût devenue fatale au comte. Quelquefois, elle penchait à espérer que la lassitude et le dégoût avaient suivi la fermeté de son refus et que ses projets étaient abandonnés. Enfin, elle se figurait encore que le comte recourait au stratagème, suspendait ses visites, obtenait de Montoni qu'il ne le nommât pas, dans l'espoir que la reconnaissance et la générosité feraient tout sur elle et détermineraient un consentement qu'il n'attendait plus de l'amour. Elle passait le temps dans ses vaines conjectures, cédant tour à tour à l'espérance et à la crainte. Montoni se mit en route pour Miarenti, et ce jour, comme les précédents, s'écoula sans voir le comte et sans entendre parler de lui. Montoni s'étant décidé à ne point quitter Venise avant le soir, pour éviter les chaleurs et jouir du frais de la nuit, on s'embarqua pour gagner la Brenta 1 heure avant le soleil couché. Émilie, assise seule près de la poupe, contemplait en silence les objets qui fuyaient à mesure que la barque avançait. Elle voyait les palais disparaître peu à peu, confondus avec les flots. Bientôt les étoiles succédèrent aux derniers rayons du soleil couchant. Une nuit tranquille et fraîche vint l'inviter à de douces rêveries, qui n'étaient troublées que par le bruit momentané des rames et le faible murmure des eaux. Cependant, on arrive à l'embouchure de la Brenta. Des chevaux sont attelés à la barque et la font remonter rapidement entre 2 rives, cornettes à l'envi des bois élevés, des jardins voluptueux, de riches palais et des bosquets parfumés de myrtes et d'orangers. Émilie, rappelée à de tendres souvenirs, songea alors aux belles soirées qu'elle avait passées à la vallée. Elle se souvint de toutes celles que, près de Toulouse, elle avait passées avec Valancourt, dans les jardins de sa tante. Perdue dans ses tristes rêveries, et répandant souvent des larmes, Émilie fut appelée par Montoni. Elle le suivit dans la cabane. Des rafraîchissements y étaient disposés, et sa tante s'y trouvait seule. La physionomie de Madame Montoni était enflammée d'une colère, dont la cause semblait être une conversation qu'elle venait d'avoir avec son époux. Montoni la regardait avec un air de courroux et de mépris, et tous deux, quelque temps, gardèrent le silence. Montoni parla à Émilie de Quesnel. « Vous ne comptez pas, j'espère, persister à soutenir que vous ignoriez le sujet de ma lettre ?»« Depuis votre silence, j'avais espéré, monsieur, qu'il n'était plus nécessaire d'insister et que vous aviez reconnu votre erreur. »« Vous avez espéré l'impossible, » s'écria Montoni. « Il eût été aussi raisonnable à moi d'attendre de votre sexe une conduite conséquente et de la franchise. » Qu'à vous d'imaginer que vous pourriez me convaincre d'erreur. » Émilie rougit et garda le silence. Elle aperçut alors trop clairement qu'elle avait en effet espéré l'impossible, et que là où il n'y avait point existé d'erreur, on ne pouvait amener la conviction. Il était évident que la conduite de Montoni n'avait point été l'effet d'une méprise, mais celui d'un dessein concerté. Impatiente d'échapper à une conversation aussi affligeante qu'humiliante pour elle, Émilie retourna sur le tillac et reprit sa place près de la poupe sans redouter le froid. Il ne s'élevait aucune vapeur des eaux, et l'air était sec et tranquille. Là, du moins, la bonté de la nature lui accorda le repos que Montoni lui refusait. Lorsque réveillée par la voix d'un des guides ou par quelque mouvement dans la barque, elle retombait dans ses réflexions, elle songeait d'avance à la réception que lui feraient monsieur et madame Quesnel, et ce qu'elle dirait au sujet de la vallée. Puis elle tâchait de détourner son esprit d'un sujet aussi fatigant, en s'amusant à distinguer les détails du beau pays qu'on apercevait au clair de lune. Pendant que son imagination s'égarait ainsi, elle découvrit un bâtiment qui s'élevait au-dessus des arbres. À mesure que la barque s'avançait, elle entendait des voix. Bientôt, elle distingua le portique élevé d'une belle maison ombragée de pins et de sycomores. Elle la reconnut pour la maison même qu'on lui avait montrée comme la propriété du parent de Madame Quesnel. La barque s'arrêta près d'un escalier de marbre qui conduisait à terre. Les arcades du portique étaient illuminées. Montoni envoya un de ses gens et débarqua avec sa famille. Ils trouvèrent Monsieur et Madame Quesnel au milieu de quelques amis, assis sur des sofas, sous le portique, jouissant du frais de la nuit, mangeant des fruits et des glaces, tandis que plusieurs domestiques à quelque distance formaient une jolie sérénade. Émilie était accoutumée aux mœurs des pays chauds, et ne fut point surprise de trouver monsieur et madame Quesnel sous leur portique à 2 heures après minuit. Après les compliments d'usage, la compagnie se plaça sous le portique, et d'une salle voisine, où était étalée une profusion de mets, de nombreux serviteurs apportèrent des rafraîchissements. Monsieur Quesnel entretint particulièrement Montoni de ses propres affaires, avec son ton ordinaire d'importance. Il vanta ses nouvelles acquisitions et plaignit avec affection Montoni de quelques pertes récentes que celui-ci avait essuyées. Ce dernier, dont l'orgueil était du moins capable de mépriser une telle ostentation, découvrait aisément, sous une feinte compassion, la véritable malignité de Quesnel. Il l'écouta avec un dédaigneux silence. Mais quand il eut nommé sa nièce, ils se levèrent tous les deux et se promenèrent dans les jardins. Émilie, cependant, se rapprocha de Madame Quesnel, qui parlait de la France. Le nom même de sa patrie lui était cher. Elle trouvait du plaisir à considérer une personne qui en sortait. Ce pays, d'ailleurs, était habité par Valancourt. Elle écoutait Madame Quesnel dans le bien faible espoir que peut-être elle pourrait le nommer. Madame Quesnel, qui pendant son séjour en France parlait avec extase de l'Italie, ne parlait en Italie que des délices de la France, et s'efforçait d'exciter l'étonnement et l'envie en racontant toutes les belles choses qu'elle avait eu le bonheur d'y voir. Émilie attendit en vain le nom de Valancourt. Madame Montoni parla à son tour des charmes de Venise et du plaisir qu'elle se promettait en visitant le château de Montoni dans l'Apennin. Ce dernier point n'était mis en avant que par vanité, Émilie savait bien que sa tante prisait peu les grandeurs solitaires, et celle surtout que présentait le château d'Udolphe. La conversation continua. On se chagrina mutuellement autant que la politesse pouvait le permettre, par une réciproque ostentation. Couchés sur des sofas sous un élégant portique, environnés des prodiges de la nature et de l'art, des êtres sensibles eussent éprouvé des mouvements de bienveillance, d'heureuses dispositions, et eussent cédé avec transport à toutes les douceurs de ces enchantements. Bientôt après, le jour parut. Le soleil se leva, et permit aux yeux surpris de contempler le magnifique spectacle qu'offraient au loin les montagnes couvertes de neige, leurs cimes garnies de vastes forêts, et les riches plaines qui s'étendaient à leurs pieds. Les paysans qui se rendaient au marché passaient dans leurs bateaux pour aller jusqu'à Venise, et formaient un tableau nouveau sur la Brenta. Les parasols de toile peinte, que la plupart portaient pour se garantir du soleil, les piles de fruits et de fleurs qu'ils arrangeaient dessous, la parure simple et pittoresque des jeunes filles, tout l'ensemble était aussi riant que remarquable. La rapidité du courant, la vivacité des rames, le cœur de tous ces paysans qui chantaient à l'ombre de leurs voiles, le son de quelque instrument champêtre touché par quelque jeune fille auprès de sa rustique cargaison, il semblait que la scène eût pris un caractère de fête. Quand Montoni et M. Quesnel eurent rejoint les femmes, on se promena dans les jardins, dont la charmante distribution réussit à distraire Émilie. Cependant, le soleil s'élevait sur l'horizon, et la chaleur commençait à se faire sentir. La compagnie quitta le jardin, et chacun alla chercher le repos.